France Inter. Les admirations littéraires de Fabrice Luchini sur France Inter.
Bonsoir, bonsoir. Alors, je vous le disais en fin d'émission dimanche dernier, je ne sais pas s'il y a des milliers de gens qui écoutent Nietzsche, mais on me dit que France Inter, c'est le très haut de gamme, donc peut-être qu'il y en a quelques-uns. En tout cas, je vous le disais en fin d'émission, je vous ai lu Ecce Homo, je vous l'ai mis en perspective avec Blaise Pascal. Oui, d'accord, un dimanche soir, 19h20, tapé dans le haut comme ça, mais enfin, moi, c'est mes passions littéraires, donc je fais ce que je ressens. Mais je vous avais promis que j'allais vous parler du Gai Savoir, qui est une œuvre moins connue de Nietzsche, enfin qui est très connue par les philosophes, mais le grand public connaît moins. Elle demande une rumination, c'est une œuvre, ça a été écrit en Sicile, il l'a défini comme une incarnation à connotation provençale. Et pour résumer, si vous n'étiez pas là la semaine dernière, je redis la même chose, c'est le plus littéraire de tous les philosophes, que je suis incapable de vous dire sur la thèse de Nietzsche, sur la volonté de puissance, l'éternel retour, le concept du ressentiment. Ah, je suis incapable, il faudrait connaître Kierkegaard, il faudrait connaître Hegel. Je ne me place pas du tout en prof de philo, malheureusement. Je suis un lecteur qui, pendant des mois, a lu Nietzsche. Et d'ailleurs, la petite anecdote, c'est que j'ai connu Nietzsche par ma première fiancée qui exigeait que je lise Nietzsche. Certainement pour que je m'approche de l'idée idéale qu'elle avait de moi. Mais moi, j'étais apprenti coiffeur à cette époque-là et je peux vous dire que je comprenais rien à Zarathoustra. Et puis après, des profs, des merveilleux profs m'ont fait accéder à Nietzsche d'une manière, j'allais dire, littéraire. Et là, je voudrais me contenter de vous lire la préface du Gai Savoir. Elle est démente. Elle est démente parce qu'elle annonce Freud, elle annonce le créateur de l'inconscient. Alors, il a été donc écrit en Sicile, et je vous l'ai dit, c'est une incarnation de connotation provençale. Et là, c'est le Nietzsche heureux. C'est le Nietzsche heureux. Il commence par cette phrase dans sa préface, toujours traduite par, je crois, Alexandre Vialat, le plus grand traducteur de Nietzsche. Peut-être pas le plus proche, mais le plus inventif. Il faudrait peut-être plus d'une préface à cet ouvrage, écrit Nietzsche. Encore laisserait-elle un doute. Peut-on rendre sensible au moyen de préface ce que ce livre a de vécu à quelqu'un qui n'est pas passé par des expériences analogues? Il semble écrit dans la langue du vent de dégel. Pétulance, inquiétude, contradiction, temps d'avril, si bien qu'il rappelle constamment le voisinage de l'hiver autant que la victoire sur l'hiver. Victoire qui vient, qui ne peut pas ne pas venir, qui peut-être est déjà venue. Il déborde de gratitude, comme si c'était réalisé la chose la plus inattendue, la gratitude d'un homme guéri. Mais oui, parce que c'était bien cette guérison la chose la plus inattendue. Gai savoir, gaia sensia, gai savoir. Ça signifie les saturnales d'un esprit qui a résisté patiemment à une terrible et longue pression. Patiemment, sévèrement, froidement, sans abdication, mais sans espoir, et qui se voit soudain assailli par l'espoir de guérir, par l'ivresse de guérir. Ce livre tout entier n'est qu'une fête succédant à une longue privation. Alors là, il explique par quoi il est passé, les sommets de la connaissance, la dureté, etc. Mais il rompt immédiatement en disant cette phrase « Mais laissons là, monsieur Nietzsche, oh !» Mais laissons là, monsieur Nietzsche, que nous importe que monsieur Nietzsche ait recouvré la santé. Le psychologue sait peu de questions plus attrayantes que celles des rapports qui existent entre la santé et la philosophie. Et quand il tombe lui-même malade, il apporte à son propre mal toute sa curiosité scientifique. Car on a nécessairement la philosophie de sa personne, à supposer qu'on en soit une. Mais les cas sont bien différents. Chez l'un, ce sont les lacunes qu'on voit philosopher, et chez l'autre, les richesses, les forces. Le premier a besoin de sa philosophie à titre de soutien, de sédatif, de médecine, ou encore pour se délivrer, pour s'édifier, pour s'oublier. Chez le second, elle n'est qu'un luxe. Mais dans l'autre cas, plus courant, lorsque ce sont les misères qui philosophent, phrase extraordinaire pour comprendre Nietzsche. Mais dans l'autre cas, plus courant, lorsque ce sont les misères qui philosophent, tout est là dans Nietzsche. C'est les misères qui philosophent, c'est la haine de la vie. C'est ceux qui sont accablés par la vie qui pensent. Moi, je me sens pas du tout nietzschien, hein. Mais il dit, mais dans l'autre cas, plus courant, lorsque ce sont les misères qui philosophent comme chez tous les penseurs malades, et ils forment peut-être une majorité dans l'histoire de la philosophie, qu'advient-il de la pensée même sous la pression de la maladie? Ah, ça, c'est là, c'est une question qui importe aux psychologues. Alors là, on est dérouté parce que c'est la philosophie de Nietzsche. Toute philosophie qui place la paix plus haut que la guerre. Alors, c'est pas la guerre entre les États, c'est la paix, l'espoir bouddhique d'être en paix. Pour Nietzsche, ça ne vaut rien. Lui, il veut la guerre avec lui-même. C'est pas du tout une guerre de mitraillettes, hein. Toute philosophie qui place la paix plus haut que la guerre. D'où le fait qu'il n'est pas du tout contemporain. Toute éthique qui conçoit négativement le bonheur. Toute métaphysique, toute physique qui envisage un état définitif quelconque, toute aspiration, surtout esthétique ou religieuse, à un à-côté, à un au-delà, à un au-dehors, à un au-dessus, autorise à rechercher si ce ne fut pas la maladie qui inspira leur philosophe. Alors là, c'est la notion, comment dire, fondamentale chez Nietzsche, c'est qu'il pense que ce qui a philosophé jusqu'à lui, c'est que des gens qu'en voulaient à la vie. Et il dit cette phrase étonnante, « Je me suis demandé bien souvent si la philosophie, en gros, n'a pas été jusqu'à ce jour que, je dirais, une simple exégèse du corps. » C'est-à-dire une simple méprise du corps qu'une simple histoire du corps. Il invente les maladies psychosomatiques. Derrière les plus hautes évolutions éthiques qui ont guidé jusqu'à présent l'histoire de la pensée se cachent des malentendus nés de la conformation physique, soit d'individus, soit de classe. Vous savez, j'ai trop conscience de l'avantage que me donnent les vicissitudes de ma santé sur les Hercules de l'esprit. Un philosophe qui a passé et qui repasse constamment par de nombreux états de santé passe par autant de philosophies. Il ne peut pas faire autrement à chaque fois que de spiritualiser son état, lui procurer le recul le plus propre aux choses de l'intelligence. C'est cet art de transfigurer qu'on appelle philosophie. C'est la première fois qu'il y a une définition de la philosophie autant étonnante. Et sa haine du christianisme, par moments, il y a des ponts quand même. Un philosophe qui a passé et qui repasse constamment par de nombreux états de santé passe par autant de philosophie. Il ne peut pas faire autrement à chaque fois que de spiritualiser son état, lui procurer le recul le plus propre aux choses de l'intelligence. C'est cet art de transfigurer qu'on appelle philosophie. Et là, pour moi, c'est un des moments prodigieux de Nietzsche. Nous ne sommes pas libres, philosophes, de séparer l'âme et le corps, comme le peuple les sépare. Nous sommes encore moins libres de séparer l'âme et l'esprit. Nous ne sommes pas des grenouilles pensantes, des appareils enregistreurs aux entrailles frigorifiées. Nous devons constamment enfanter nos pensées dans la douleur et leur donner maternellement tout ce que nous avons de sang, de cœur, de feu, de joie, de passion, de tourment, de conscience, de destin, de fatalité. Vivre pour nous, c'est constamment transformer en lumière, en flamme, tout ce que nous sommes, tout ce qui nous touche aussi. Nous ne pouvons pas faire autrement. La maladie. Ne serions-nous pas presque tentés de nous demander si nous pouvons nous en passer? Cette espèce de composante chrétienne là-dedans, transfigurée, mettre en lumière, se demander si c'est pas la maladie comme Pascal qui a fait qu'il a atteint tous ses chefs-d'œuvre. La douleur seule, la grande douleur, libère l'esprit en dernier ressort. Elle qui enseigne le grand soupçon, vous imaginez à quel point il n'est pas contemporain. Nous, nous pensons qu'à notre bien-être, on passe 3 heures de yoga, 3 heures de marche, des reniflements de tous les côtés, on mange bio, on prend du vélo, évidemment, moi c'est ce que je fais, je suis pas plus qu'un bobo. Et l'autre qui nous dit la douleur seule, la grande douleur, la douleur seule, la grande douleur libère l'esprit en dernier ressort. Elle qui enseigne le grand soupçon, la douleur seule, la grande douleur, cette longue et lente douleur qui prend son temps et nous fait cuire comme au bois vert, nous oblige, nous philosophes, à descendre au dernier repli de nos profondeurs, à rejeter toutes ces confiances, toutes ces bonhomies, toutes ces douceurs, tous ces moyens termes dans lesquels nous placions peut-être jusqu'alors notre humanité. Je doute fort qu'une telle douleur nous rende meilleurs. Je dirais que c'en est fait de la confiance qu'il y a eu dans la vie. Oui, la vie elle-même est devenue un problème. Voyez à quel point il n'est pas contemporain, mais qu'on ne croit pas pour autant qu'il soit devenu misanthrope. Aimer la vie lui est même encore possible. Il l'aime seulement d'une façon différente. Il l'aime comme une femme dont on doute. Alors, que je n'oublie pas pour finir l'essentiel de ces abîmes, de ces graves maladies, même je dirais de celles du soupçon grave, on revient régénéré avec une nouvelle peau, plus chatouilleux, plus méchant que jamais, avec un goût plus subtil pour la joie, avec une langue plus sensible aux bonnes choses, l'esprit plus gai, doté d'une seconde innocence. On revient plus enfantin qu'on ne le fut jamais, et en même temps 100 fois plus raffiné. Et puis là, je le cite de mémoire, que tout ce qui produit du plaisir à l'homme moderne nous dégoûte, tous ces tam-tams monstrueux, toutes ces choses monstrueusement énormes nous dégoûtent. Et il termine, quant à l'avenir, alors là, il y a toute la thèse de Nietzsche, il dit, quant à l'avenir, on nous retrouvera difficilement sur le même chemin que ces jeunes Égyptiens qui vont troubler la paix des temples dans la nuit, qui embrassent les statues et qui veulent à tout prix dévoiler, découvrir, jeter en pleine lumière tout ce qui est caché pour de bonnes raisons. Cette thèse, c'est qu'on n'a pas à chercher la vérité, que la vérité, elle est dans l'apparence. C'est la phrase de Paul Valéry, ce qui est le plus profond dans l'homme, c'est la peau. Non, ce mauvais goût, dit Nietzsche, besoin de la vérité à tout prix. La vérité, pour Nietzsche, n'existe pas, il n'y a que des interprétations. Donc chercher la vérité veut rien dire. Non, ce mauvais goût, ce besoin de la vérité à tout prix, cette folie de jeune homme nous dégoûte. Nous avons bien trop d'expérience, de sérieux, de gaieté, de brûlure. Nous ne croyons plus que la vérité reste vérité sans ses voiles. Nous avons trop vécu pour cela. Nous faisons maintenant une question de décence, de ne pas vouloir tout voir nu, de ne pas assister à tout, de ne pas chercher à tout comprendre, à tout savoir. Est-ce que c'est vrai que le bon Dieu est partout ? Demandait une petite fille à sa maman. Je trouve ça bien indécent. Indication pour les philosophes. On devrait honorer davantage la pudeur que la nature met à se cacher derrière l'énigme et les incertitudes. Peut-être la nature est-elle une femme qui a ses raisons pour ne pas laisser voir ses raisons. Peut-être son nom, pour parler grec, est-il Baobo. Alors Baobo, c'est une déesse de la fécondité, de la sexualité, qui ressemblerait vaguement, je me lance sur un truc que je maîtrise moyennement, qui serait Kali chez les hindous. C'est une femme, c'est la fécondité, c'est la sexualité. Peut-être son nom pour parler grec est-il Baobo ? Et là, c'est le génie. Ah, ces Grecs, comme ils savaient vivre. Ça demande la résolution de rester bravement à la surface, de s'en tenir à la draperie, à l'épiderme, d'adorer l'apparence et de croire à la forme, au son, aux mots, à toute l'Olympe de l'apparence. Là, c'est le génie. Ces Grecs étaient superficiels par profondeur. Et n'en revenons-nous pas là, nous, casse-cou de l'esprit, qui avons escaladé le sommet le plus élevé, le plus dangereux de la pensée actuelle, et qui de là vont regarder en bas. Ne sommes-nous pas précisément en cela des Grecs ? des adorateurs de la forme, des adorateurs des sons, des mots, des artistes donc. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques que les soleils marins teignaient de mille feux et que leurs grands piliers droits et majestueux rendaient pareils le soir aux grottes basaltiques. Les houles en roulant les images des cieux mêlaient d'une façon solennelle et mystique les tout-puissants accords de leur riche musique aux couleurs du couchant reflétées par mes yeux. C'est là que j'ai vécu, dans les voluptés calmes, au milieu de l'azur, des vagues, des splendeurs et des esclaves nus tout imprégnés d'odeurs qui me rafraîchissaient le front avec des palmes et dont l'unique soin était d'approfondir le secret douloureux qui me faisait languir. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels, la multitude vile, sous le fouet du plaisir, se bourreau sans merci. Pourquoi parler de Baudelaire? Eh bien, on pourrait dire que Baudelaire serait comme un Nietzsche pas surmonté, et Nietzsche serait comme un Baudelaire surmonté. J'avais essayé de travailler cette thèse. Il n'y a rien de plus éloigné que l'homme du ressentiment qu'incarne Baudelaire. Et pourtant, ils ont des points communs. Le goût de la forme, le goût de la création volontaire. Il y a en Baudelaire un Nietzsche qui n'aurait pas métamorphosé sa lumière. Et il y aurait en Baudelaire un Nietzsche qui n'aurait pas trouvé la puissance de vie pour dépasser tous les critères moraux du christianisme et du judaïsme. Baudelaire serait comme un Nietzsche qui serait resté dans le ressentiment. Rien n'est plus éloigné que Nietzsche et Baudelaire. Et pourtant, j'ai un ami qui s'appelle Stanislas Weiss, qui a toujours dit qu'il y avait en Baudelaire et en Nietzsche des planches. Des planches d'abord, Nietzsche a prévu que Baudelaire était le premier wagnérien. Et ce qui est étonnant, c'est que quelques mois plus tard, Baudelaire va voir Wagner en Allemagne. Ce qui est étonnant, c'est que Nietzsche le prévoit. Il sent que c'est une littérature wagnérienne. Et pourtant, vous savez, mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer mourir au pays qui te ressemble. Les soleils brouillés de ces ciels mouillés pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants polis par les ans décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ombre, les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme, en secret, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux, ces riches vaisseaux dont l'humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Ça, c'est Baudelaire. Comme je l'ai de tête, je ne veux pas le trahir. Mais c'est étonnant, la liaison Baudelaire et Nietzsche. C'est complètement étonnant. Mais est-ce que quand il dit « Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille », est-ce que c'est pas nietzschien ?« Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille », sauf que Nietzsche, il prend sa douleur, et Baudelaire, il dit « Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille », tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels, la multitude, vertu de ville, sous le foie du plaisir, ce bourreau sans merci va cueillir des remords dans la fête servile. Ma douleur, donne-moi la main. Viens par ici, loin d'eux. Vois se pencher nos défuntes années sur les balcons du ciel en robe surannée. Surgir du fond de l'eau le regret souriant, le soleil moribond s'endormir sous une arche, et comme un long linceul traînant à l'Orient, entends ma chère, entends la douce nuit qui marche. Évidemment que Baudelaire a choisi la nuit, que Nietzsche trouvait et veut la lumière et le soleil. Nietzsche a choisi la grande santé, Baudelaire a choisi la maladie. Évidemment, comme un disciple de Wagner, Baudelaire est envahi d'art et Nietzsche dépasse l'art dans une vision vitaliste de la vie globale.
Œuvre pour clavier de Jean-Sébastien Bach, interprétée par Virkingur Olafsson.
Les admirations littéraires de Fabrice Luchini sur France Inter.
Dans Le Crépuscule des idoles, Nietzsche écrit pour qu'il y ait de l'art, pour qu'il y ait un acte et un regard esthétique, une condition psychologique, une condition physiologique préliminaire est indispensable, l'ivresse. Il faut d'abord que l'excitabilité de toute la machine ait été rendue plus intense par l'ivresse, autrement l'art est impossible. Toutes sortes d'ivresse, quelle qu'en soit l'origine, ont ce pouvoir, mais je dirais surtout l'ivresse de l'excitation sexuelle, cette forme la plus ancienne, la plus primitive de l'ivresse. Et puis après, il y a d'autres ivresses qu'entraînent toutes les grandes convoitises, toutes les émotions fortes, l'ivresse de la fête, l'ivresse de la joute, de la victoire, l'ivresse de la cruauté, l'ivresse de la destruction. L'ivresse née de certaines conditions météorologiques, par exemple le trouble printanier ou sous l'influence des stupéfiants. Enfin, l'ivresse de la volonté, l'ivresse d'une volonté longtemps retenue et prête à éclater. L'essentiel dans l'ivresse, pour Nietzsche, c'est le sentiment d'intensification de la force, de la plénitude. C'est ce sentiment qui pousse à mettre de soi-même dans les choses, à les forcer à contenir ce qu'on y met, à leur faire violence, c'est ce qu'on appelle l'idéalisation. Et qu'est-ce que dit Baudelaire ? Il dit « il faut être toujours ivre ». Tout est là. C'est l'unique question pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre. Il faut vous enivrer sans trêve. Il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin ? De poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est, et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront « Il est l'heure de s'enivrer » pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps. Enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu à votre guise. Et on peut terminer encore avec un poème. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans, de verres, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans tes quittances, cache moins de secrets que mon triste cerveau. C'est une pyramide. Un immense caveau qui contient plus de morts que la fosse commune. Je suis un cimetière aboré de la lune, où comme des remords se traînent de longs vers qui s'acharnent toujours sur mes morts les plus chères. Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées, où gît tout un fouillis de modes surannées, où les pastels plaintifs et les pâles bouchées seuls respirent l'odeur d'un flacon débouché. Rien n'égale en longueur les boiteuses journées, quand, sous les gros flocons des neigeuses années, l'ennui, fruit de la morne incuriosité, prend les proportions de l'immortalité. Désormais, tu n'es plus ô matière vivante, qu'un granit entouré d'une vague épouvante. Assoupi dans le fond d'un Sahara brumeux, un vieux sphinx ignoré du monde, oublié sur la carte et dont l'humeur farouche ne chante qu'au reflet du soleil qui se couche. Sois sage, ô ma douleur.
Thank you.
Les admirations littéraires de Fabrice Lucchini.
Je remercie pour cette émission Xavier Pestoggia à la réalisation, Élise Christophe à la technique, Thierry Dupin pour la musique. Et je redis à quel point Emmanuel Garacino est essentiel, car je vous le redis, si elle n'était pas là, je viendrais plus. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à dimanche prochain.